Directeur Jules Radio Insolite, j'ai un rendez-vous charmant, merveilleux avec un jeune homme de bonne famille. Alors là, attention, il s'est habillé comme il fallait, il a un costume, une chemise, une cravate, il s'est bien coiffé, il s'est rasé de manière super. Bonjour Alexandre.
Bonjour Pierre-Alain.
Et oui Alexandre, l'avantage qu'on a c'est que bon, là je t'ai trahi quand même. Dis-moi, oui. On avait rendez-vous logiquement, on a ce rendez-vous logiquement pour parler de la semaine du tourisme, mais là... Il faut jamais parler avant avec quelqu'un. Et là, tu m'as livré une information qui est quasiment une exclue, quoi. C'est le cas de le dire.
Ouais.
Avant de dire quelle est cette exclue, déjà, j'ai une question difficile à te poser, mais je ne sais pas si je peux me permettre de te la poser. Est-ce que tu me donnes le droit de te la poser ?
Oui. Vas-y, je t'écoute. Attention, parce que là, ne me demande pas de me raser.
Non. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et il y a des fois où j'aime bien dire, est-ce que tu as un vrai métier ?
Un vrai métier ? Ah, celle-là, elle est, oui. La question est formidable. Je te remercie. Oui, je pense que j'ai un vrai métier. Donc, alors là, je fais très court. Alain, j'ai trois casquettes. Donc, je suis ex-danseur classique, chorégraphe. Dans mon pays de naissance, Bulgarie, où en 89, j'arrive ici, un courtier du gouvernement français à l'Opéra de Paris, en tant que chorégraphe et metteur en scène. Parallèlement avec mon travail comme chorégraphe et danseur, je fais mes études de théâtre à l'Académie nationale de mise en scène. Avec un petit sursaut à Moscou, à l'école, la grande école de théâtre, pendant 6 mois, où j'ai été formé. Et puis, à mon arrivée en France, à l'Opéra Garnier, en tant que chorégraphe metteur en scène, après ma spécialisation, donc études de réalisation cinématographique. Donc voilà mes trois casquettes, cher Alain. Je suis désolé.
Ah oui, mais pourquoi ? Tu es désolé ? Non, mais tu es très très bien.
Non, mais
donc tu as fait plein de choses. Voilà. Non, mais bon, par contre, tu n'as pas répondu à ma question.
Qui suis-je ?
Non, es-tu un vrai métier ?
J'ai un vrai métier. Oui, j'ai un vrai métier. Oui. J'ai un vrai métier. C'est... Donc, je prends le livre, j'ouvre la pièce d'un auteur, comme actuellement la pièce de Jean-Claude Grimbert, que j'aime bien. Je me concentre, j'analyse, je ferrette entre les phrases et entre la ponctuation, et j'essaye de créer des personnages qui n'existent pas.
Tu vois, ça c'est bien cette présentation que tu es en train de faire là. Tu sais pourquoi ? Parce que ça montre qu'il y a besoin d'avoir plein de choses, plein de qualités là-dessus, plein de talents, je dirais. Parce que comme tu l'as dit, tu prends un livre, tu analyses, tu regardes entre les lignes, tu regardes derrière la ligne, et ça c'est très important.
Exact.
Alors Gilles, on devait parler de la Bulgarie, on devait parler de tout ce que tu as fait, mais en fait, tu m'as livré une information, et là j'ai sauté au plafond. Parce que tu as décidé, alors que tu es censé faire du théâtre, on est bien d'accord, tu as décidé de faire différemment cette fois-ci, sur un autre art, et je tiens à signaler que art, je l'écris avec un grand A. Alors, et tu vas te confronter à un truc pas très connu, quoi, c'est connu au niveau mondial. De quoi est-ce que tu parles ? De quoi est-ce que je parle ? De quoi va-t-on parler ? Le do cu.
Mon terre. Cinéma.
Oui, alors qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on fait quand on est homme de théâtre, qu'on a envie de passer au cinéma ?
Je suis de tout mon tout petite enfance. Mon papa, qui est ingénieur, il était photographe. Et donc, on avait à la maison un laboratoire. Donc, je me rappelle à 6 ans. Je prenais les photos avec les pinceaux comme ça, de là, je le mettais là.
Oh mon Dieu!
Et je m'étais trompé. Donc,
dans le révélateur, dans tous ces trucs-là, mon Dieu!
Voilà. Notre... Tu vois un peu? Je suis trompé ici. Et quand je te parle de ça, j'ai des frissons et je sens l'odeur de passage de chaque papier, de chaque. Bassin, je ne sais pas comment on dit, pour reproduire l'image noir et blanc, parce que des années 60, c'était noir et blanc.
Et c'était des pellicules, et on regardait si c'est du 100, du 200, du 400. Oh mon Dieu!
Et c'était des pellicules. Et puis, j'ai une grande, grande chance, quand j'ai fait mes études de cinéma ici à Paris, au Conservatoire libre de cinéma français, la première année, je faisais des montages. Et je faisais des montages avec la monteuse avec la monteuse de Truffaut. Donc une dame qui avait à l'époque 78 ans, qui enseignait et qui transmettait le métier de cette pellicule qui vibrait sur la table. Et c'était tout à fait... C'est tout un art, comme tu disais, art avec la grande lettre, la lettre A.
D'accord. Donc, c'est ce qui explique un peu que tu avais déjà des circonstances atténuantes. Alors, comment ça se fait que tu fasses des études de cinéma et tu passes au théâtre?
Au théâtre, j'étais toujours au théâtre depuis mon jeune âge, depuis 22 ans, parce que ma première... Si tu veux, mise en scène comme assistant au théâtre, c'était Alfred Dumité. On ne bat pas avec l'amour en Bulgarie. La deuxième, c'était Macbeth de Shakespeare, opéra. Et donc, j'étais très bien entouré et j'ai eu la chance d'être dans une époque où, comme on appelle l'époque des grands maîtres. Et j'en avais comme ça deux, trois. Donc, Ostrovski, qui était le lointain... petit-fils de grand Alexandre Ostrovski, qui est le père de Vaudeville en Russie. Donc, tu vois, Ostrovski, Fedor a beaucoup appris d'Ostrovski, et puis, etc., etc. Donc, j'ai eu la chance de travailler le théâtre et la littérature. Donc, justement, ma passion... ce métier où je suis rentré à 22 ans parallèlement en tant que danseur à l'académie pour poursuivre mes études de mise en scène. Donc voilà, tout ça c'était ma prédestinée, disons, voilà, je ne sais pas le nommer autrement. J'aime la littérature, j'aime les personnages, j'adore me pencher dans l'analyse de la dramaturgie psychologique de tous ces personnages et créer des univers existants et inexistants. Bon.
Est-ce que le théâtre et le fait de préparer un documentaire, un cinéma, c'est la même technique, c'est la même démarche?
Pas du tout.
Merci.
Ouais. Tu le sais,
Alain, tu refais ta question. Refais ta question. Ouais.
Pas du tout. Donc voilà, le cinéma, c'est un autre monde. C'est vrai que le théâtre est très utile. La mise en scène théâtrale est très utile quand tu diriges les comédiens, quand tu fais la direction d'acteurs devant la caméra. Certainement, ça sert. Par exemple, tu vois. Le documentaire que je monte actuellement et que je vais présenter à Cannes, que je souhaite qu'il soit sélectionné, il faut passer à la sélection, c'est un sujet qui n'a rien littéraire. Donc tout est notamment d'aujourd'hui, l'Europe, la passion de la jeunesse, les connaissances des outils européennes, donc est une simulation des tout jeunes lycéennes qui se projettent au Parlement, au conseil d'administration, conseil d'État et au Parlement aussi dans ces outils aujourd'hui quand on ne connaît pas très bien. En Europe, malheureusement,
oui.
Dans tous ces 27 pays. Et puis, donc, le sujet est assez... Enfin, tout ça, ça a été... Pourquoi je te parle de ça? Je ne sais pas. Ça vient comme ça parce que tu me poses la question. J'ai filmé à l'Assemblée nationale à Paris pendant 4 jours. Oui. Et tout se passait là, dans la grande salle hémisphère de l'Assemblée nationale, avec 120 jeunes. Chacun avait son rôle. Ah, c'était impressionnant. C'était
D'accord.
passionnant et impressionnant. Et donc voilà, actuellement, je suis en montage. En montage, et puis à la fin du mois, j'envoie le film à Cannes pour attendre la sélection.
Alors, je tiens à préciser aussi, c'est important, je pense que tout le monde est au courant que si Avignon est toujours aux mêmes dates, au mois de juillet, Cannes s'est déplacé, puisque c'était prévu du 12 au 23 mai, non, du 12 au 26 mai, et que ça s'est déplacé, puisque Cannes va se positionner à partir du 6 juillet et jusqu'au 19 juillet. Donc c'est pour ça que, il y a aussi un décalage dans la sélection, je suppose, et tout. Il va y avoir trois étapes, c'est ça? Il y a donc le dépôt du documentaire, début avril, et puis après.
Dépôt, il y a une présélection,
Oui.
présélection qui sera en avril, et puis il y a une sélection deuxième qui sera en mai, et puis après, si les films sont sélectionnés, tu passes troisième étape, hein, donc au festival.
D'accord.
Voilà, donc j'attends toute cette marche rouge, ou pas rouge, pas du tout rouge, les marches pour voir la suite, et je souhaite bien y être, en tout cas.
Ça fait quoi de se dire que tu as l'habitude de faire pas mal de spectacles à Paris? Ça peut être le studio Uberto, ça peut être plusieurs autres endroits. Tu pratiques depuis quelques années le Festival d'Avignon. Passer à Cannes maintenant, c'est quoi? C'est autre chose? C'est un niveau supérieur? Comment on pourrait dire ça?
Moi, je pense que oui, certainement, c'est deux mondes complètement différents.
Attends,
Avignon,
excuse-moi Alexandre, c'est ton premier documentaire?
c'est mon troisième documentaire.
D'accord, donc tu en as déjà fait. Ah oui, alors moi je croyais que c'était ton premier, pardon, d'accord.
Oui, mon troisième documentaire, certainement, il y avait un qui était des années 94, qui est sorti dans le cinéma. Cinéma des cinéastes à Paris.
D'accord.
Donc il était ovationné parce que c'était un sujet que j'ai choisi à l'époque grâce à Stéphane Grappelli et le violon de Grappelli. Donc le film s'appelle À la quête du son. SON. Et c'était un documentaire de 45 minutes, plus précisément 48, qui était réalisé en 93. Il est sorti dans le cinéma en 94, donc j'avais
D'accord.
une première. Il était même racheté par le ministère d'éducation pour Val-d'Oise, parce qu'il avait des valeurs à la recherche du son entre Stradivari, la production de violon,
Tout à fait.
noble, comme on dit, noble de 16e, 17e siècle, et la production des violons en matériaux composites, comme c'était le violon de Grappelli, qui avait un son inoubliable et exceptionnel. Donc, d'où mon idée à l'époque. Donc, c'était un grand pas dans la documentation. Donc, maintenant, c'est mon deuxième depuis, tu vois, 94-2021, il y a quelques années qui se sont passées.
Et comment ça se fait après le succès du premier que t'as pu tu as mis tant de temps pour reprendre
Ben, c'était le souhait de continuer dans le théâtre,
D'accord.
et quand tu mets le métier de théâtre, malheureusement, tu ne peux pas mener les deux arts avec la grande lettre A. Parallèlement, c'est très difficile financièrement d'assurer
D'accord.
et l'un et l'autre. Donc, il faut faire un choix.
D'accord. Question gentille maintenant. T'es prêt?
Oui.
Tu les aimes bien mes questions gentilles. Hein. Est-ce que c'est le même processus et procédure d'écrire pour le théâtre ou d'écrire pour un documentaire? cinéma.
Pas du tout.
Alors, je tiens à préciser un petit détail, c'est que logiquement, si j'ai bien compris, pour le théâtre, on va dire tu fais des adaptations ou tu crées toi-même. Pour le cinéma, là, le documentaire, je suppose que tu crées tout de A à ZZ. Donc voilà. Est-ce que c'est la même chose ? Première question.
Vas-y. Oui, tu le sais, Alain, très bien. C'est pas du tout la même chose.
Non, je ne sais pas. Arrête de dire que je le sais. Pas... Ah zut
oui. Ah oui, c'est pas du tout la même chose pour la simple raison, c'est que moi, dans le théâtre, en tant que metteur en scène ici dans la structure artistique française, je fais partie de SNMS, le Syndicat National des Metteurs en Scène, où nous, on est des auteurs, mais on est des auteurs de notre mise en scène. Voilà.
Excuse-moi, précise bien, que je comprenne bien. Auteur de notre mise en scène, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire quoi ? SNMS, Syndicat National des Metteurs en Scène, qui existe depuis 1947, qui est créé par les grands maîtres de théâtre français et européen. Nous, on est des auteurs à notre propre mise en scène. Donc, ça veut dire, j'explique.
Vas-y.
Je prends une pièce classique ou contemporaine. Je fais la distribution et je commence à travailler les personnages. Je crée sans que je fasse une adaptation. Je te parle de mise en scène.
C'est pour ça que j'insistais sur la notion d'adaptation et cette notion d'auteur de la mise en scène.
Voilà. Oui. Donc, je parle d'une mise en scène sans qu'on fasse l'adaptation.
D'accord.
Donc, on crée le décor, on crée la scénographie, tout ce qui est la scène avec les décors, costumes, lumière et autres. Donc, on fait la distribution. Après, on commence pour développer les personnages et les mettre dans leur contexte. S'il y a de la psychologie des personnages, on les met dans leur robe, comme Tchekhov et Stanislavski parlent très souvent de les mettre dans chaque personnage dans leur habit. Et ensuite, créer la mise en scène. Et donc, la mise en scène devient ton écriture. Donc, tu es auteur de ton écriture qui est scénique, sur scène, que tu réalises avec les comédiens, ce qui est tout à fait normal. D'où les droits d'auteur de la mise en scène. Il y a en France aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on est très, très mal barrés, les metteurs en scène en France, parce que nous, on n'est pas rémunérés comme avec des cachets dans les représentations, comme les comédiens. On est rémunéré pendant les répétitions, donc toute cette période de création, et puis on touche 2% sur chaque représentation à la suite de ta propre mise en scène. Donc, 2, 3, 4, ça dépend de...
D'accord. Mais dis-moi, je ne vois pas la différence avec un documentaire. Un documentaire, c'est la même chose. Non, je suis un peu basique, excuse-moi, mais un documentaire, tu vas toi-même prendre... je vais être un peu basique. Hein. Tu prends ta feuille blanche, tu vas écrire, et après, tu vas choisir tes comédiens, tu vas adapter... c'est quoi la différence ?
La différence est énorme. Elle est comme... oui, voilà. Donc, d'abord... Je ne choisis pas du tout mes comédiens. Donc, j'ai un sujet. Je m'assois et j'écris. Non, je te parle de documentaire. Hein.
Oui, documentaire. Oui.
Documentaire, c'est... Quentin. Tu as un sujet, par exemple. Tu sais que, par exemple, tu montes un film documentaire sur l'Europe et sur le Parlement européen.
D'accord, excuse-moi Alexandre, pour être un peu basique, ça veut dire que tu n'as qu'un sujet, c'est tout, tu n'as rien d'autre, et tu vas aller chercher après, c'est ça ?
Oui, tu écris le scénario, comme on appelle le scénario.
Donc là, c'est toi qui l'écris, d'accord.
Voilà, c'est toi qui l'écris, le scénario, tu as une idée, tu t'assois, tu écris le scénario, donc ta pièce, sauf que c'est un scénario que tu vas filmer. Ensuite, tu découpes ton scénario, ensuite tu fais des repérages où le tournage aura lieu. Ensuite, tu sais ce que tu vas filmer, qui tu vas filmer, où tu vas le filmer, comment tu vas le filmer. Tout ça, c'est à le prendre en compte et préparer ton, comme à l'époque on le faisait, ça on appelle, mais là aujourd'hui, c'est pas du tout de la même façon, on appelait ça storyboard.
Le fameux storyboard.
Storyboard. Donc, voilà. Et là, on ouvre et on faisait même, on le dessinait, le storyboard, nous-mêmes, proprement, avec notre main. En fait, premier plan, c'est, ça va se passer là-bas, il y a tant de personnes, deuxième plan, troisième plan, et quand on fait comme ça 1000 plans, par exemple, voilà, notre film, documentaire peut être bien, évidemment. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce que l'informatique nous rend ça nous facilite enfin la réalisation de storyboard. Voilà, tu es auteur de tout. Donc, et après, tu mets la caméra. Ce que j'ai fait, moi, mon cas, c'était que moi, j'ai fait aussi le caméraman. Donc, j'ai pris la caméra épaule et pendant 4 jours, je fais toutes les interviews qui étaient prévues avec les gens qui font partie de ce mouvement, 4 jours. Et certainement, j'avais une caméra stationnaire fixe qui filmait tout l'événement. Et après, tout se passe, tout le reste se passe au montage. Donc voilà, ça c'est mon cas actuel. Sinon, il y a.
Alors, puisqu'on est censé aussi, on navigue un peu même dans les voyages, parce que tu me fais un peu rêver, tu m'emmènes dans des endroits assez originaux, pardon. Il y a un mot que mon père me répétait, ok, c'était le mot occhio, Ochio, les yeux.
Oui.
Il y a d'un côté les yeux et de l'autre côté il y a le cerveau. Mais comment est-ce qu'on fait? Quelle est cette partie du cerveau que tu as et que je n'ai pas développée? Ok, toi tu l'as développée. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vision? Parce qu'un documentaire, je rappelle que je suis actuellement chez Regus, qui est un coworking à Lyon, et qu'à Lyon nous avons les usines Lumière. Et quand les frères Lumière faisaient un documentaire, eux ils faisaient 52 secondes, mais toi le tien, je crois qu'il fait un peu plus que 52 secondes. Comment est-ce qu'on fait pour voir du début à la fin ce qu'on veut faire? C'est quoi le processus? Tu vas me répondre, c'est de la création. Merci. Mais c'est quoi
Non,
toi?
non.
Ah non, c'est
Non,
pas, pardon.
je c'est la non. Création, c'est un mot général. Oui, tout le monde crée. Toi, tu crées actuellement.
Ah oui, on est en train de créer un.
Voilà.
Oui, d'accord.
Voilà, tout le monde crée. Non, c'est. On
Comment
a
est-ce
dit
qu'on
que.
peut avoir
Non,
cette vue? Comment est-ce qu'on peut avoir cette.
c'est étrange, Alain. Je ne sais pas comment. C'est présomptueux, enfin, c'est prétentieux de dire inné. Mais c'est drôle ce que je te dirais là un instant. Je vais te donner un exemple. J'ouvre la pièce de Laurent Godet, par exemple, Cendre sur les mains, que je vais présenter à la saison 2021-2022 à Paris. Et après la première lecture, j'ai tout de suite en tête le processus de la pièce. Je vois tout. Je le vois, mais je le vois comme je te vois. La même chose. Je
Mais
reçois
moi je
mon.
vois pas moi, Alexandre.
Voilà. Je vois mon ami Raphaël Moncomble, le président de MEUP, qui me dit, écoute, 4 jours, on aura une simulation de cybernétique, de Parlement européen, de tous les instruments par des jeunes. Est-ce que tu veux le filmer? Et après, on en parlera de la suite pour le film que tu vas réaliser. Au moment où il me donne le thème et je mets la caméra, je sais, je vois ce que je vais faire. C'est étonnant, peut-être c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. En tout cas, peut-être tout le monde doit, à mon avis,
J'ai l'habitude de
avoir.
répéter, moi, qu'on a tous un talent. Nos talents sont différents. C'est la complémentarité des talents qui fait parfois de très très belles réussites. C'est vrai. Mais moi, c'est vrai qu'il faut être très cartésien dans tout ce que tu fais. Il faut être très carré. J'allais dire, il n'y a pas d'improvisation. Nous, l'avantage en radio, c'est qu'on peut avoir de l'improvisation. Toi, c'est quasiment impossible.
Impossible, oui. L'improvisation, quand tout est. C'est comme tu le sais aussi, c'est comme dans la partition.
Oui.
Donc, tu as une partition musicale,
Oui, tout
c'est
à
le
fait.
chef d'orchestre, c'est le chef. Tu mets les baguettes. Au moment où tu mets les baguettes, tu peux improviser, mais improviser sur un thème bien écrit. Donc, tu peux donner des couleurs. Tu peux aller, oui, tu peux aller au-delà, mais tu restes dans la partition.
Non mais attends,
Mais tu mets des couleurs.
s'il te plaît Alexandre, moi je suis peut-être très simpliste, mais tu improvises sur la base d'une partition écrite. Mais attends, excuse-moi, mais s'il y a marqué do ré mi fa sol la si do, tu fais do ré mi fa sol la si do, tu peux pas faire do.
Oui, mais donc attention, hein. Exemple, Léonard Bernstein,
Oui, Léonard Bernstein,
oui, quand il dirige la symphonie de Mahler, on l'a entendu par autre chef d'orchestre, dans un autre rythme et dans des couleurs différentes. Et quand tu l'entends avec Léonard Bernstein, c'est d'autres couleurs. Et tu dis que celui-là, c'est un génie.
Bah, écoute, je sais
C'est
pas.
là la différence des couleurs.
Alors là, excuse-moi, mais là, t'es mal
Eh bien,
barré
c'est
avec moi, parce
compliqué.
que ah, pour moi,
Écoute.
s'il y a marqué un do, tu joues le do, et que le do, il s'est joué par
Voilà.
toi ou par moi, je vois pas la différence, hein, c'est
Le
tout.
do, oui, le do peut être noir, gris, gris foncé, gris clair. Comme Fellini. Fellini, tu vois un film de Fellini et tu vois de Michelangelo Antonioni, et les deux sont peintres, mais tu as un tableau de Fellini et un tableau de Michelangelo, et là tu vois qu'il y a une petite différence, mais c'est le même tableau.
Ensuite, quand tu. Donc là, tu as bien expliqué, tu écris, tu as tout fait. Est-ce que tu écris en sachant qui tu vas choisir, ou est-ce que tu écris et après tu cherches à savoir quel est l'artiste, quel est le comédien, la comédienne qui va pouvoir correspondre à ce que tu as écrit?
Tu parles dans le cinéma ou dans le
Oui, dans le
théâtre?
cinéma, non, non, toujours dans le documentaire.
Oui. Dans le documentaire, si c'est un film d'auteur, certainement, là actuellement, je travaille sur un texte qui s'appelle O, E-A-U-X. O, mais les à Montmartre. Donc, c'est une histoire documentaire de fiction de 1800. 80 jusqu'à 1939. Donc, c'est les quatre grandes époques de notre 19e, 20e siècle. Donc, c'est la Commune, Dreyfus, Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Et là, dans chaque les quatre, il y a des personnages que je vais faire revivre. Certainement, quand j'ai lu les romans écrits par Michel Gaspard, certainement. Les personnages sont là. Donc, je vais les faire revivre, ces personnages, qu'à chaque époque, il y a une naissance, amour, etc. Certainement, j'ai en tête quels seront les comédiens parce que je suis inspiré par le roman et par l'histoire de Michel Gaspard
D'accord.
et ces personnages qui ont vécu. Donc, là, je sais. Mais quand j'écris un documentaire comme celui-là, actuellement, où il y a 120 personnes, des jeunes qui font une simulation de tout ce qui est l'administration européenne. Donc là, il n'y a pas de personnage. Là, c'est un peu comment dirais-je, l'effervescence de la jeunesse européenne qui me mène et qui mène le personnage. Donc le personnage sont les 120 enfants.
J'ai envie de dire, je tiens à m'excuser parce que là, le propos que je vais dire est particulièrement, je veux pas dire déplacé, mais bon, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que ces 120 jeunes sont authentiques, ils sont vrais, ce ne sont pas des
Oui,
comédiens. Alors qu'un
non.
comédien, par définition, il suit une ligne, le texte qu'a écrit le metteur en scène. Là, je
C'est
bâte en touche,
exact.
comme ça je me couvre. C'est tout.
Oui, c'est tout à fait ça.
Ce qui veut dire aussi quelque part, autant un comédien, je veux dire, tu peux peut-être un peu mieux le contrôler, autant un jeune, s'il est lui, c'est pas la même chose.
Oui. Là, on n'intervient pas il n'y a pas de direction. Dans un documentaire, pas de direction d'acteur. Là, tu prends les faits tels quels et tu le mets à sa place selon ton idée. Ton idée et ton œil, l'œil de, voilà, de réalisateur, l'œil de la lumière, de la situation et de tout ce qui suit dans l'histoire de documentaire.
Est-ce que tu prends le même plaisir à faire le théâtre ou à faire du cinéma?
Oui, moi je pense que la passion est toujours là. Là, c'est je prends le même plaisir. Oui, vraiment, le plaisir est le théâtre est bien plus dans la littérature que le cinéma, pour moi, est bien plus dans les tripes de la lumière et dans l'odeur. Donc moi, quand je prends la caméra et je commence, je sens l'odeur de la pellicule. Que dans le théâtre, donc c'est la littérature qui m'inspire quand je lis et surtout entre les lignes.
La différence, c'est que le cinéma, tu filmes des gens, okay, durant 4 jours. Le théâtre, c'est tous les soirs sur scène, avec
Oui.
des comédiens et avec à chaque fois un renouvellement. C'est pas parce que la pièce s'est bien déroulée la veille que ce jour-là, ça va être la même chose.
C'est sublime ça. C'est pour ça qu'on appelle ça, enfin, le théâtre, tous les soirs, c'est différent. Ce qui est formidable, de voir un sujet, comment il peut évoluer, comment il peut tout trahir, tout quitter et revenir, vivre, revivre. C'est pour ça qu'on appelle ça spectacle vivant. Est-ce que c'est vivant? Malheureusement, aujourd'hui, moi, je l'appelle spectacle mort.
Oui, exact, on est
Parce qu'on
d'accord.
est un peu dans la contrainte de ne pas être vivant actuellement.
On est même dans l'interdiction de pouvoir agir, hein, ça c'est clair, hein, je veux dire,
Donc voilà, le spectacle vivant, c'est. Ouais.
Direct en jeu de Radio Insolite, on est avec Alexandre Tivanov, qui est en même temps metteur en scène, chorégraphe et tout. Dis, est-ce que dans tout ce que tu as fait depuis le début de ta vie, le fait d'avoir fait de la danse dans des pays qui sont réputés comme étant, même ces danseurs à Moscou ou en Bulgarie, ils dépendent pas de l'armée, tellement c'est carré, c'est. Mais alors c'est. Est-ce que tout ça, ça t'a permis d'avoir une richesse? Puis est-ce que c'est là-bas qu'il fallait apprendre ce type de choses? Parce qu'autant on a le ballet de l'Opéra de Paris, mais on a l'impression quand même que quand on est dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est le summum du summum au niveau de tout ce qui est cet art.
La danse, c'est un art, un art de discipline. Donc, je suis très content de l'avoir pratiqué dans tout mon jeune âge, car ça m'a mis dans des carrés qui m'ont discipliné, qui ont créé mon exigence. Et tu sais, dans la danse, il y a un miroir.
Oui,
Mon professeur,
oui.
voilà. Et mon professeur disait,
Moi, je trouve ça ignoble.
oui,
Excuse-moi. C'est-à-dire que tu
c'est
vois ce que tu. Non, c'est pas que tu sens ce que tu
ignoble.
fais, c'est que tu le vois en plus.
C'est ça le pire des choses, parce que tu vois tous tes défauts. Et là, tu te dis, donc, soit je m'en sors avec mes défauts, soit, soit je ferme la page et j'ouvre une nouvelle page.
Mais.
Donc, tu n'as pas le choix.
Ouais, tu as commencé à quel an, à quel âge la danse?
J'ai commencé à 6 ans la danse, c'est tout
Comme,
petit.
comment est-ce qu'on. Mais c'est pire que se flageller, quasiment. Comment est-ce qu'on peut faire. C'est une profession de foi, je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. À 6 ans, on se fixe des règles du jeu comme ça?
Non, je n'ai rien fixé, donc j'étais juste la suite d'une décision de mes parents où je suis rentré au palais de la culture. Pour faire de la danse 2 fois par semaine et 1 fois par semaine piano et 1 fois par semaine accordéon. Donc je faisais accordéon.
Attends,
Ah non, mais non, non, mais
attends, je recommence. Tu faisais de la danse, tu faisais du piano et de l'accordéon.
et l'accordéon. Donc il faut que tu saches que l'accordéon était plus grand que moi parce que moi j'étais tout petit et tout maigre et ils m'ont filé un accordéon qui me coinçait les cuisses. Et quand je jouais à l'accordéon, tu voyais juste une partie de mon front. Et mes chevilles. Donc, tout le reste, c'était accordéon. J'avais du mal à le. Non, mais c'était comme ça. Tu sais, à l'époque,
Oui, c'est ce que j'ai
c'était
te
comme ça.
demandé.
Voilà, c'était comme ça, la famille, le papa et la maman qui mettent le garçon, il paraît beaucoup qui porte le rythme et il est très musical. Tout le monde dit qu'il est très musical, Alexandre, il faut qu'il soit sur scène. Et donc, je me retrouve à faire de la danse classique, accordéon et piano. Et donc, certainement, à la suite, ça se développe. Et au bout de à 14 ans, je suis rentré à l'académie, à l'école de danse classique de l'opéra, d'ailleurs, comme ici, à l'opéra. D'accord.
Donc, pire encore.
Et tu fais là 5 ans, tous les jours, de 9h à 20h à l'école, où tu fais la danse, direction d'acteurs, musique, tu es à l'opéra, tu fais l'analyse. D'ailleurs, on était obligé chaque semaine d'aller voir un opéra ou un ballet et analyser la semaine prochaine. Tu as vu Tchaïkovski ? Bon, qu'est-ce que tu as vu de Tchaïkovski ? Et comment c'était l'orchestre ? Et là, qu'est-ce qui t'a plu ? Et le sujet, qui a écrit le livret ? Tchaïkovski, il est né quand ? Il est mort quand ? Donc, ça, tout ça, ça a été une exigence de l'école disons-le, hein, l'école russe. Le temps des communistes, à l'époque, il y avait une exigence, mais il faut le dire que l'école française, elle est excellente. Excellente. De toute façon, il y a deux écoles de danse classique dans le monde. Il y a l'école française et l'école de Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était Leningrad. Donc, c'était Vakhtangova et l'école française. Donc, l'école russe était un peu musclée, musclée de façon bien plus de muscle que l'école française, a été avec de l'élégance et beaucoup de finesse et développer les corps différemment. Donc, ça, c'était mon premier métier. Donc, je peux te parler des heures et des heures parce que j'ai 20 ans de la danse et beaucoup de chorégraphie derrière moi, de l'opéra, de comédie musicale et des ballets et de tout ça.
Oui, enfin, moi, pour information, de ce que je me rappelle de l'image de cet art, moi, c'est Nathalie Portman qui me l'a montré avec le film Black Swan, où tu as l'impression que là, c'est un sacerdoce, quoi. Parce que là, quelque part, est-ce qu'on a une jeunesse là-dessus, ou est-ce que c'est vraiment une passion dévorante?
C'est une passion dévorante parce que la danse classique, tu ne peux pas le faire avec 2 heures par jour de la danse. Donc, soit tu plonges et tu es là à l'opéra de matin au soir et tu deviens danseur, sinon laisse tomber. Portman, elle est magnifique, mais elle a fait ça parce que son époux, c'est 1000 pieds. Donc,
exactement, c'est important.
Voilà. Et c'est lui qui l'a mis là-dedans, et c'était très bien filmé.
Mais si tu veux, c'est le film, c'est tout ce qu'il y a dans le film, tous les messages qui passent, où elle en est presque à se faire souffrir, à se faire mal. Et c'est ça que c'est pour ça que c'est impressionnant. Et c'est vrai, comment dire, que bon, l'école russe est réputée dans le monde entier comme étant le summum du summum, quoi. Ce qui est d'un côté bien, mais de l'autre côté.
Je ne sais pas est-ce que tu veux le garder ou pas, mais la danse classique, c'est il faut être un peu maso pour pouvoir vraiment continuer tout le temps, parce que là, c'est de la souffrance au quotidien, parce qu'il y a des corps qui font tout ça avec une légèreté et qui sont prédisposés, mais il y a d'autres corps qui demandent beaucoup de travail. C'est comme dans la musique, comme dans le théâtre.
Comme dans le vélo, comme dans la natation, comme dans de l'e-sport, etc. Oui.
Tu montes les Alpes avec le vélo, à un moment donné, tu craches tes poumons, tu ne peux plus. C'est avec la danse. La danse, c'est une. Et ça demande une perfection. La danse demande une perfection. Être perfectionniste, c'est là où ça commence, à un moment donné. Et plus tu travailles, plus tu es acharné à la recherche de cet perfectionnement.
Ouais. Mais c'est bien. Je peux te demander un service. Alors, pour information, comme ça vous comprendrez, parce que bon, c'est qu'on est en même temps, comment dire, évidemment, en train d'enregistrer en audio, et puis on est en liaison vidéo, lui et moi ensemble, et c'est pour ça. Je peux te donner un service. Est-ce que tu peux fermer tes yeux 2 secondes? Tu as fermé tes yeux. Nous sommes le 6 juillet, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. J'écoute.
Oh là 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 là!
Alors, je tiens à vous rappeler qu'on est toujours en train de suivre avec impatience l'histoire du film Scars, la disgrâce, avec Didier Cros et avec Jenny et les artistes. Ils vont participer, alors ils attendent de participer au festival Entre deux Marches, qui est le festival du film Andy, et qui est une sélection qui se fait toujours à Cannes dans la deuxième semaine. Et le gagnant d'Entre deux Marches gagne le fait de pouvoir être diffusé dans la grande salle du Palais des Festivals, donc en montant les marches, les fameux tapis rouges, le dimanche à 10h du matin. Mais là, vas-y, imagine. Ça, imagine le pire qui puisse t'arriver, tu es dans la sélection. Qu'est-ce que tu fais? T'arrives à Cannes, tu pleures.
C'est vraiment vrai. Enfin, comment te
Tu
dire?
tu te mets à genoux et t'embrasses le sol.
C'est ça, en fait. C'est le rêve des rêves. D'abord, la première sélection que je suis autorisé pour passer à la deuxième sélection, c'est royal.
Ouais.
Tu passes la deuxième sélection et tu es accepté pour que ton film soit vu à Cannes et tu passes quelque part à côté des marches. Avec ton attention, avant l'année en 2019, il avait un seul documentaire accepté.
D'accord.
Un seul. Donc ça veut dire que c'est encore pire que les autres, parce que s'il y a des docu, il y a un seul qui est mentionné et qui est sélectionné et qui est nommé. Un seul.
Mais c'est ignoble.
Mais c'est ignoble.
Mais c'est pire que la danse classique.
C'est pire. Mais c'est ça ce que je voulais dire. C'est ignoble. C'est pire. Ça veut dire que j'entendrai l'itinéraire
Oui.
de la jeunesse européenne. Et là, je vais aller aux toilettes. Pour accélérer
Voilà, il n'y a pas besoin,
la
tu l'as
joie
très bien
de.
imagé, il n'y a pas de souci.
Et je vais à la chasse d'or tout de suite. Oui.
Et ce documentaire, bon, il va à Cannes, mais est-ce qu'il est prévu d'être diffusé dans des cinémas de l'art et d'essai? Ouf. Oui.
Oui, on pense à ça. On pense à Cinéma des cinéastes à Paris. Certainement, tout cela viendra. Viendra. On aura plusieurs points où le film sera projeté. D'abord, j'attends que je termine là d'ici dizaine de jours. Et on va faire une projection parce que il y a quand même le vice-président de l'Assemblée nationale, Wasserman, il y a la ministre des Affaires européennes, il y a la ministre de cela, le ministre de cela. Donc tous ces gens-là, il faut qu'ils voient le film pour donner leur autorisation que le film soit projeté. Donc il y a pas mal de marches avant les marches rouges de Cannes. Mais on est sur la. Moi, je suis tout à fait confiant parce que je vois ce qu'on fait. Et tu sais qui fait le montage? Qui est mon bras droit? Devine.
Serait-ce une jeune fille de bonne famille?
Exactement. Que tu appelais la blonde. Peut-être elle était à un moment donné blonde, mais elle n'est plus blonde. C'est
Ouais,
Priska
alors, je sais,
Long.
attends, je sais pas si elle s'appelle Sulky ou Sul, je m'en rappelle plus, c'est ça?
Elle est Sulky. C'était Sulky et Sulcu
Voilà.
ont des conversations intelligentes, mais elle est sortie déjà de ces conversations intelligentes de Jean-Michel Ribes. Et actuellement, elle est au montage.
S'il te plaît, je t'en supplie, peux-tu m'épeler Sulky et Sulcu? Parce que franchement, là, il
Voilà,
y a des gens
ça
qui
c'est
vont
ça.
entendre, qui vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Ça s'écrit avec le K. Donc, Sulky et Sulcu.
Voilà,
On.
Sulkie.
I. Voilà. K-I. Il n'y a pas
Kayi,
de.
pardon, il n'y a pas de. Ouais.
K-I. Et Sulcu. K-U. À la fin. Ont des conversations intelligentes.
Voilà, donc comme ça, il n'y a pas
Excellence.
d'interprétation.
Excellence de Jean-Michel Ribes.
Alors,
Excellent.
Maintenant, attention, la dernière question, elle est croustillante. Pourquoi as-tu choisi Prisca?
Ah, alors là, celle-là, je ne l'attendais pas. Ouais. Celle-là, je ne l'attendais pas. Pourquoi j'ai choisi Prisca? Pour faire le montage ou pour le rôle de Sulky?
Non, arrête, pour faire le montage. Excusez-moi, je suis tordu de rire parce que je vous dis, l'avantage c'est que c'est une interview assez originale, c'est même une émission spéciale assez originale, mais je l'ai devant moi, je le vois, et vous verrez la tête qu'il a. Parce que quand il dit, ah, je ne m'attendais pas à cette question-là, je peux vous dire que là, en non-verbal, il l'exprime bien. Alors, pourquoi parmi toutes ces personnes qui pouvaient faire le montage, tu l'as choisi, elle, en particulier?
Parce que à l'époque, quand on s'était rencontré en 2019, j'étais en préparation de ce tournage. Et je lui dis, écoute, je sais que tu veux bien voir comment les choses se passent, que tu aimes le cinéma et que tu vas continuer ton parcours théâtral et cinématographique. Si tu veux, viens avec moi. Je te laisse la caméra fixe à toi avec un appareil photo en haut au balcon, oui, avec une vraie caméra.
Elle avait juste à appuyer sur un bouton marche, on et off.
Voilà. Et avec un appareil photo aussi, elle se prenait des photos et elle bougeait la caméra fixe, elle changeait l'axe contre-plongée et tout cela. Et petit à petit, au bout de 4 jours, je peux te dire que là, j'ai vu comment elle est rentrée dans le sujet. Et puis, à la suite, après avoir terminé, quand on a compris ils veulent qu'on crée un documentaire, j'ai dit, ben maintenant, la deuxième étape, c'est un ordinateur bien puissant avec Adobe Pro. Et comme elle est ingénieure, elle est informatiquement très bien formée, elle a imaginaire et une vision très poussée, donc je lui confiais le bébé dans ses mains. Et là, je peux te dire qu'il y a des choses que elle fait de l'animation. Elle a créé un personnage dans le film qui est le petit troll qui ne comprend rien, qui vient de Brexit. En fait, c'est le petit bonhomme qui dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 c'est pas vrai. Si, non, c'est excellent, c'est magnifique. C'est le contrepoint de la vérité du film, du sujet.
Eh bien, vous voyez, c'était pas du tout le point du rendez-vous qu'on avait fixé avec Alexandre pour cela. On devait parler de tourisme. On aura peut-être l'occasion de le faire la semaine prochaine. Mais là, je peux vous dire que c'est peut-être cela, le côté émotion, le côté passion, ce qui nous manque quand même dans l'événementiel et les spectacles vivants. C'est-à-dire que là, je ne m'attendais pas du tout à réaliser une émission qui fait à peu près 48 minutes et 30 secondes. Et c'était passionnant. Je voulais te remercier, Alexandre. Et puis, il faudra qu'on se retrouve la semaine prochaine quand même pour parler d'un truc original. Moi, j'ai dit que je voulais parler de l'Italie, de l'Espagne et de l'Égypte et de la Turquie et de la Grèce parce que ce sont les origines de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents. Et toi, c'était un mix. J'ai pas compris. On finit juste là-dessus. Grec,
Cher Alain,
bulgare,
écoute bien.
hein?
Oui, donc je suis né en Bulgarie.
Oui, non, non,
J'ai
mais
un
attendez.
grand-père
Oui, vas-y.
qui vient de Thessalonique. Le grand-père, le papa de ma maman, qui est né à Thessalonique, en Grèce. Et du côté de mon papa, j'ai des origines de Sicile, d'Italie. Donc, ça veut dire que toutes ces familles, à un moment donné, se sont retrouvées en Bulgarie, au bord de Danube. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que c'est ça. C'est là où je n'avais pas de chance. Non, je plaisante. Et je suis né au bord de Danube, la ville de Elias Canetti.
D'accord, et
Le prix
ben
Nobel de la littérature.
eh ben écoute, là, ça sera un sujet à part entière et je te donne rendez-vous durant la semaine du tourisme. On va en parler. Salut à toi.